Et il est temps maintenant de retrouver nos libraires montalbanais. C'est le temps de l'émission Les Voix de l'Alma avec Jacques Griffaut, Philippe Bernadou et Daniel Deloche. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Le premier coup de cœur que vous nous proposez, Jacques Griffaut, s'appelle « Et rien d'autre ».
Oui, « Et rien d'autre », c'est un livre de James Salter. James Salter, c'est un écrivain américain important qui est né en 1925. Il a été pilote de chasse, notamment pendant la guerre de Corée. Il est auteur de romans dont Un bonheur parfait et Un sport et un passe-temps, ce dernier d'ailleurs dont l'action se déroule en France. Je cite à dessein ces deux romans parce que je sais que ses lecteurs vont se précipiter sur Et rien d'autre, son récent roman qui paraît à l'Olivier. Voilà 31 ans qu'il n'avait pas publié de roman. Il a cependant pas été oisif pendant tout ce temps-là, car il a publié des nouvelles et puis une biographie qui s'appelle Une vie à brûler. Il a 89 ans, il nous propose donc ce « Et rien d'autre ». Je signale tout de même que le titre original, c'est « All that is », ça veut dire « Tout ce qu'il y a ». Entre « Tout ce qu'il y a » et « Rien d'autre », bien. Fin de la Seconde Guerre mondiale, Philippe Bowman, qui a servi sur un porte-avions, rentre chez lui, il rentre dans une maison d'édition à New York, à une époque où les maisons d'édition, on est dans les années 50, étaient gérées comme de grandes propriétés, de grands domaines privés. Elles reflétaient la personnalité de leurs propriétaires, ce qui donnait d'ailleurs aux éditeurs la liberté de publier un peu ce qu'ils voulaient, et il y avait une très grande intimité entre l'éditeur et l'écrivain. Philippe Bowman, qui a une sorte d'obsession de la littérature, il s'y complaît dans ce milieu, et il va réussir. Par contre, pour ce qui est de sa seconde obsession, qui est l'amour, c'est plus compliqué. L'amour se dérobe, et pourtant, c'est un homme cultivé, à bien des égards, c'est une sorte d'homme idéal. Lui, homme du New Jersey, va épouser Viviane, une jeune femme de Virginie, une sudiste, très fille à papa, appartenant à un milieu dont cependant il ne fera jamais partie. Voilà la description de Viviane. Elle appartenait à ce monde qui buvait trop, possédait de grandes maisons, des voitures avec des bottes maculées de boue et des sacs de croquettes pour chiens dans le coffre. Un monde trop fortuné et imbu de lui-même. Avec elle, cependant, Philippe Bowman va découvrir l'éblouissement de la passion physique que Salter sait si bien décrire. On va suivre pendant 40 ans Philippe Bowman dans sa chasse au bonheur, dont l'issue demeure incertaine. Son mariage, donc, qui se délite, se défait. Ensuite, ses rencontres amoureuses, parfois intenses, avant le retour à la langueur. Il n'y a pas de grand drame dans la vie de Philippe Bowman, mais des échecs sentimentaux, des tentatives d'échapper à la platitude, des renoncements. Une vie non pas en noir et blanc, mais plutôt en gris. Et Salter nous raconte, en fait, la vie d'hommes et de femmes qui ont connu la guerre, cette pierre angulaire qui a marqué leur vie. Il n'y a pas de violence, mais il y a une tension permanente. Le temps du roman est comme celui de la vie, élastique, discontinu. Des années entières qui passent sans laisser de traces, alors que des choses apparemment anodines peuvent dilater le temps. C'est un grand roman sur l'amour et la recherche du bonheur, deux thèmes essentiels et récurrents chez James Salter. Si vous n'avez jamais lu cet auteur, je vous conseille peut-être de lire un sport et un passe-temps qui se déroule donc en France. James Salter est un grand amoureux de la France. Et peut-être ensuite, après Un bonheur parfait, et puis de vous plonger dans Rien d'autre. Si vous avez lu les autres livres de James Salter, vous allez savourer Et rien d'autre et reconnaître tout le talent de ce grand écrivain.
Merci Jacques Griffaut. Daniel Deloche, L'enfant des marges, c'est votre coup de cœur cette semaine.
Eh oui, je suis une grande amoureuse de Frank Pavlov, vous ne le répéterez pas, et je crois que j'ai aimé tous ses livres. Son dernier m'a particulièrement touchée. Depuis la mort de son fils, il y a 10 ans, Johan vit en ermite dans les Cévennes. Pétrifié dans la douleur, Pierre lui-même donc, il consacre son temps à remonter des murets de Loz, avec pour seul ami un vieux paysan protestant, Cévenol, vous voyez ce que je veux dire. Mais un appel de sa belle-fille va l'obliger à sortir de sa solitude. Son petit-fils, Benjamin, a disparu à Barcelone. Johan part à sa recherche, déambule dans la ville, rencontre toutes sortes de gens. Cette jeunesse marginale, bouillonnante, mais aussi les fantômes de la guerre civile. Au fil de sa quête, il va renouer avec sa propre histoire, se réconcilier avec la vie et l'amour. Dans le même temps, le récit change de rythme. Il s'allège, se dilate jusqu'à devenir aérien, tel le faucon pèlerin qui plane autour de la Sagrada Familia. L'enfant des marges, une belle fable allégorique par l'auteur de Matin Brun. Je vous en lis un petit passage. La rue n'est pas longue. Il a poussé les portes des halls et des commerces, des couloirs et des courettes, a déchiffré une à une les boîtes aux lettres, pas trace de Villa Usurpa. Il fait très chaud, sa chemise colle à la peau. Du côté de Can Luis, elle a calmé avant la tempête. Les jeunes refluent en masse vers un bar du coin, devanture rouge et noire barrée d'une frise de cactus et couverte d'affiches, poings levés et chat noir en colère. Le trottoir déborde d'une clientèle excitée, yeux rougis par les lacrymos, verre et bouteille à la main. Chez lui, dans les fêtes de village, il sait manœuvrer. Là, il se sent aussi lourdingue que le gars du Texas qui débarque à New York dans Macadam Cowboy, empêtré dans ses scientes de Santiago et sa veste à franges. Mais aucun de ceux qui aillent leurs copains au seuil du bar n'a entendu parler de ce film. Il est d'une autre génération. De deux même. Le petit garçon du chemin des douaniers qui s'en est allé à Barcelone en laissant une fausse adresse à sa mère fait sans doute partie de cette hydre qui joue à des jeux dangereux avec les mossos et s'alcoolise en toute fraternité dans des repères d'anards. Il redit son prénom, Valentin. Toujours sa manie de parler seul, aussi absurde que si tombé à l'eau, il criait « Bouée !» pour la faire surgir par magie devant lui. Il sourit, c'est assez pour déclencher la sympathie.
Un extrait de « L'enfant des marges » de Franck Pavlov. Merci Daniel Deloche.
Avec plaisir.
Et « L'île du point Nemo », c'est le titre du roman que vous nous présentez maintenant, Philippe.
Oui, un roman de Jean-Marie Blas de Robles. Un des traits marquants de cette rentrée littéraire française, c'est la parution de plusieurs romans monstres. Des gros volumes qui maltraitent la structure romanesque. Nous en avons eu le cas la semaine dernière avec le livre de « Selon Vincent » de Christian Garcin. Et il y a même un livre qui s'appelle « Le monstre » qui vient de paraître de Serge Dubrovski, 1696 pages d'autofiction. Mais c'est d'un autre monstre dont je veux vous parler aujourd'hui. Ça s'appelle « L'île du point Nemo », donc de Jean-Marie Blas de Robles. Il y a dans ce livre deux histoires principales qui s'entrecroisent. D'une part, un roman feuilleton à la mode du XIXe siècle. Trois détectives amateurs, Martial Cantorel, un dandy opiomane, ses amis Holmes, Shylock, pas Sherlock, et Grimaud de la Reynière, non pas le célèbre gastronome, mais un métis antillais affublé du même nom. Ces trois-là, donc, font équipe autour du monde pour retrouver le diamant volé à l'Adi Magré et sautent d'un continent à l'autre au moyen de transports toujours plus exotiques, le transsibérien, bien sûr, l'aéroplane, le dirigeable, le sous-marin, que sais-je. En parallèle, Blas de Robles nous fait partager les vies minuscules des employés d'une usine de liseuses électroniques, sise dans le Périgord noir, et dirigée par Monsieur Wang, un chinois colombophile et érotomane. Mais pas en même temps. Cette usine est une ancienne fabrique de cigares, comme il y en avait autrefois dans le sud-ouest. Et du passé de cette fabrique, Monsieur Wang n'a gardé qu'une chose, la tradition de la lecture à voix haute dans l'atelier, ce qui améliore l'instruction, ce dont Monsieur Wang n'a pas grand-chose à faire, et ce qui favorise la concentration et le rendement. Voilà qui est plus intéressant. Les deux histoires vont bien sûr finir, pour une raison que je vous laisserai découvrir, à jouer l'une sur l'autre, à dérailler gentiment ensemble, dans un crescendo à la fois absurde, grinçant et tragique. Ce livre furieux touche à tout, à l'histoire du cirque Barnum, comme aux divers remèdes pour vaincre l'impuissance. À notre monde occidental, bientôt réduit à son imitation en fac-similé, dans des parcs d'attractions chinois, aux pratiques mirobolantes des prostituées de Sydney, et à cent autres sujets encore. Il est en fait l'antithèse de ce dont il se fait le chroniqueur, la mort du livre, au profit de sa mécanisation, la mort de la lecture comme lieu de partage, et par-dessus tout ça, la mort de l'imagination, qui libère des pesanteurs du monde, qui réjouit, qui émeut, qui certainement permet d'aimer. Ce roman est le parfait contre-exemple de ce pessimisme. Sa lecture en est tellement exaltante qu'il nous donne l'impression d'avoir vécu plus fort pendant et après la lecture. Chapeau bas, monsieur Blas de Robles. Je vais vous laisser sur un casse-tête qui peut vous occuper une bonne partie de la semaine, celui du titre, L'île du point Nemo. Le point Nemo, c'est dans le Pacifique Sud, le point le plus éloigné de toute Terre. Comment peut-il y avoir une île là? Bonnes insomnies. Et pour vous faire patienter, un petit extrait. Nous sommes dans ce fameux parc d'attractions chinois auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, où est reconstituée la ville de Paris en miniature. Des centaines de figurants à peau blanche contribuaient ainsi à l'authenticité de ce gigantesque jardin d'acclimatation, les concepteurs n'ayant pas lésiné sur la dépense. Parmi toutes ces exhibitions de scènes désuètes ou disparues, une vitrine provoquait immanquablement de petits rires teintés de mépris, celle d'une librairie reconstituée d'après les meilleures sources, à l'image de celles qui existaient avant la fracture numérique, responsable de leur éradication définitive. On y voyait de faux lecteurs autour de faux libraires cachectiques classant des piles de faux livres. L'île du Point Nemo de Jean-Marie Blas de Robles est publié aux éditions Zulman et Blas de Robles sera un des invités des Lettres d'automne en novembre.
Merci Philippe. Quel est votre coup de cœur, Jacques ?
Eh bien, c'est un livre qui s'appelle « Nu dans le jardin d'Éden » et c'est un livre qui est écrit par Harry Cruz. Alors, deux mots d'abord sur Harry Cruz. Il est né en Géorgie en 1935, il est décédé il y a deux ans, en 2012. Il a une enfance difficile dans le sud rural des États-Unis, grave problème de santé. Il s'engage à 17 ans dans les marines où il passera 3 ans et ensuite il enseignera l'anglais dans plusieurs écoles et universités de Floride. C'est en 68 que son premier roman est publié, Le chanteur de gospel. Il est suivi l'année suivante par ce livre-là justement, Nu dans le jardin d'Éden, en 1969. Il a aussi publié entre autres Le faucon va mourir, La malédiction du gitan, La foire au serpent, Le roi du chaos, Bodhi et surtout, Des mules et des hommes. Le récit de son enfance en Géorgie, qui est considéré par l'écrivain James Crumley comme sans doute le meilleur livre de la littérature américaine contemporaine, un livre que je recommande vivement et qui est à mon avis tout à fait formidable. L'éditeur Sonatine a donc eu la bonne idée de publier ce livre qui est paru en 1969 aux États-Unis, le deuxième donc de Harry Cruz, dans une traduction de qui ? Eh bien de Patrick Reynal. Patrick Reynal, c'est lui qui a dirigé la célèbre série noire de 1991 à 2004. Alors, c'est pas du tout un fond de tiroir qui est édité pour satisfaire les amateurs de Harry Cruz encore traumatisés par sa disparition il y a deux ans. Pas du tout. Non, c'est un Harry Cruz très bon cru. Ça se passe à Garden Hills, qui est un peu au milieu de nulle part. Garden Hills, qui a connu de beaux jours lorsque la mine de phosphate, qui était exploitée par un mania de l'industrie, Jack O'Boylan, était en activité. La mine a fermé. Les habitants ont déserté. Enfin, pas tous. Il reste une douzaine de familles qui vivent encore là, dont un certain Fatman, un homme, comme son nom l'indique, qui est obèse, 280 kilos au début du livre, plus de 300 à la fin du livre. Il a hérité de son père une fortune importante. Il pourrait aider la ville à renaître, mais il passe son temps à bouffer et ne s'intéresse à rien d'autre. Il y a Dolly, qui est un ancien prix de beauté, et qui, elle, a tenté de faire revenir Jack O'Boylan à Garden Hills. Sans succès. Elle a un projet, celui de faire de Garden Hills une ville de débauche qui attirerait les touristes. Alors vous l'avez compris, c'est un roman noir, c'est un roman de la démesure, porté par des personnages étonnants, une atmosphère surréaliste, un peu grotesque parfois. Harry Cruz, comme il le fera dans ses autres romans, il caricature, il grossit le trait, mais ses personnages, des marginaux, ont toujours une pointe d'humanité. Plus on avance, plus la narration enfle, tout comme Fatman. Moins on peut lâcher ce livre qui ne cesse de nous étonner. Nu dans le jardin d'Éden, un grand Harry Cruz.
Merci Jacques Griffou. Un peu d'actualité avec Daniel Deloche. Et juste avant, je vous rappelle le site internet pour le podcast de l'émission, c'est cfmradio.fr à la page Les Voix de l'Alma. Et puis, bien sûr, le site librairiemontauban.fr sur lequel vous retrouvez les propositions de vos libraires chaque semaine. Daniel.
Ce jeudi 18 septembre, nous rendons hommage à notre amie Lisa Avininck, qui s'est éteinte durant l'été. Journaliste et photographe, passionnée par toutes les formes de culture, Lisa soutenait toutes les manifestations des libraires de Montauban et bien sûr tous les artistes vivant dans la région. Nous vous proposons dans notre modeste cavalier une rencontre d'amitié autour d'elle. J'espère que d'autres hommages lui seront rendus également. J'en profite aussi pour vous signaler que le jeudi 25 septembre, donc la semaine prochaine, le bouquiniste Beaulégard de la librairie Beau Livre et son complice Patrick Fons, trouveur en art divers, nous invite dans notre cavalier, à les librairies de Loche donc, pour un voyage d'une heure dans l'univers du peintre montalbanais Desnoyers. Donc voilà, deux rendez-vous, jeudi 18, jeudi 25.
Et pour finir, vous pouvez nous rappeler l'appel que vous faites quasiment chaque semaine maintenant, la contribution de lecteurs.
Oui, appel au texte fait par l'ALMA. Donc, nous demandons à tous les lecteurs qui ont repéré dans des romans des scènes qui se passent en librairie de bien vouloir nous les déposer ou les inscrire directement sur le site librairiemontauban.fr. Cela donnera lieu courant de l'automne à une soirée où on lira ces textes et où il y aura d'autres surprises aussi.
Avant qu'on se quitte, merci de nous redonner les titres et les références des ouvrages que vous nous avez présentés, Jacques.
Et rien d'autre de James Salter qui est publié aux éditions de l'Olivier. Et puis Nu dans le jardin d'Éden de Harry Cruise qui est publié chez Sonatine.
Philippe.
L'île du point Nemo est écrit par Jean-Marie Blas de Robles et c'est publié chez Ulma.
Daniel.
Franck Pavlov, L'enfant des marges, chez Albin Michel.
Merci messieurs, dames, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.